Mesdames, messieurs, Yael, bonjour, ici Monsieur Côté et voici 3 pour toi. 3 actualités pour t'informer, mieux comprendre, t'inspirer et saluer la beauté pour un dernier tour de piste. 3 pour toi, édition du lundi 11 mars 2024, ça commence maintenant. Eh bien, bonne nouvelle, on apprenait vendredi le 8 mars à travers un article de l'agence France-Presse sous la plume d'Isabelle Malsang, on apprenait que 70 pays du monde entier se sont engagés, se sont mis d'accord pour changer la façon de construire les immeubles dans le but de réduire le réchauffement climatique. Alors, des ingénieurs, des architectes, des bâtisseurs, des financiers, des politiciens, tout ce beau monde se sont réunis en France à Paris, au Palais Chaillot, et ils se sont mis d'accord pour revoir les normes, les matériaux, bref, l'énergie qu'on utilise pour bâtir les immeubles, les maisons, hein, tout ça pour améliorer, ralentir le réchauffement climatique, et améliorer la situation. Aussi, ils se sont mis d'accord pour que les nouveaux codes de construction soient plus résistants, mieux adaptés au changement climatique. Alors, les pays, les 70 pays présents qui ont signé, il y avait le Canada, il y avait les États-Unis, l'Arabie Saoudite, la Côte d'Ivoire, plein d'autres pays. Fait à noter, la Chine a refusé de signer et de s'engager. Parmi les objectifs, la présidente de l'Union internationale des architectes, Regina Gontier, a dit publiquement qu'il s'engageait depuis l'été dernier à prioriser la réhabilitation du bâti existant, hein, des immeubles qui sont déjà construits, de manière vertueuse, a-t-elle dit, plutôt que de construire des bâtiments neufs. Petit défi dans un secteur tel qui est dominé parfois par des égos, hein, des créateurs, des constructeurs. Il y a urgence. La construction est un secteur où les émissions mondiales de gaz à effet de serre continuent d'augmenter et nous ne sommes pas sur la bonne voie pour parvenir à la décarbonation d'ici 2050, indiquait la déclaration. Alors, il faut faire quelque chose. On note que le secteur de la construction est responsable de 21% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. On nous dit que 40% des pays du monde possèdent des règles en ce qui concerne l'énergie, mais que seulement 26% des pays de la planète possèdent des normes en ce qui concerne le bâtiment, leur construction et l'énergie qui est utilisée pour le faire. Alors pourquoi c'est important? Eh bien, on a tous besoin de maisons, d'immeubles pour vivre, hein, d'édifices, mais ça génère beaucoup de pollution, beaucoup de gaz à effet de serre. Ah oui, il faut faire mieux, réduire, n'est-ce pas, et s'entendre tout le monde pour faire mieux. Nouvelle numéro 2, eh bien, jeudi soir dernier, aux États-Unis, le président des États-Unis, Joe Biden, a livré un discours spécial très important. On appelle ça, en anglais, le State of the Union Address. C'est le discours sur l'état de la nation qu'il a donné, ce discours-là, devant la Chambre des représentants, donc au Capitole à Washington, là, devant les élus républicains et démocrates et et indépendant, parce qu'il y en a quelques-uns. Le tout est diffusé en direct à peu près sur toutes les chaînes, sur toutes les plateformes. Et en essence, fondamentalement, c'est un discours qui vise à faire le bilan de tout le progrès que le pays a fait depuis un an au niveau économique, social, et aussi présenter les projets que le président et son parti veut accomplir pour l'année qui s'en vient, et demander aux élus du Congrès d'appuyer ces projets-là et évidemment de les financer. Il faut savoir que le State of the Union Address, le discours sur l'état de l'Union, c'est un devoir qui est prévu dans la Constitution des États-Unis. Et suite à ça, ça a duré environ une heure quelques, jeudi soir, le parti d'opposition, en l'essence les républicains, va aussi donner une réplique, diffusée elle aussi sur toutes les stations, sur toutes les plateformes, toutes les chaînes. Cette année, c'est une représentante républicaine qui a fait la réplique filmée de sa cuisine, semble-t-il. Alors, le New York Times nous a fait un résumé des points importants qui ont été abordés par le président, les choses à retenir. Mais premièrement, le président n'a jamais prononcé le nom de Donald Trump. Il a plutôt utilisé mon prédécesseur. Et donc, il ne veut pas lui faire de publicité. Il faut comprendre qu'on est en année électorale. C'est très important et c'est aussi l'occasion pour lui de se faire une bonne publicité, hein. Deuxièmement, le New York Times nous dit qu'il a dénoncé fortement, très fort, ce que Trump avait fait. Là, Trump, on rappelle qu'il avait encouragé la Russie à attaquer les pays membres de l'OTAN qui ne contribuent pas à hauteur de 2% l'effort de guerre. Et donc, essentiellement, pour être considéré comme de la trahison. Hein. Alors, Biden a dénoncé ça fortement. Troisième chose, le New York Times remarque que Biden a été très combatif contre les républicains. Il a montré une rare forme parce que, évidemment, on critique beaucoup son âge puisqu'il a 81 ans. Il va donc être, il est le président qui va être le plus vieux. Lorsqu'il va se représenter, on rappelle que Biden a 81 ans et Donald Trump a 77 ans. Et suite aux élections primaires, pas aux élections primaires, pardon, mais aux élections pour nommer les membres des partis qui ont eu lieu mardi, qui était le super mardi aux États-Unis, ben on est essentiellement fixé. Ce sera Joe Biden pour les démocrates et Donald Trump pour les républicains lors de l'élection du 5 novembre prochain, si je ne me trompe pas trop. Quatrième chose, Biden a décrit les signes récents très positifs de l'économie américaine. Les taux d'intérêt qui semblent se fixer, retourner vers la baisse, l'inflation qui se résorbe et les attentes positives là, des consommateurs. Donc, les choses se replacent là-dessus. Et cinquièmement, on remarque que Biden s'est beaucoup penché sur la question de l'avortement, donc des droits des femmes là-dessus. Et il a déclaré que ce serait l'enjeu décisif pour l'élection de novembre. Voilà, alors pourquoi c'est important? Eh bien, les États-Unis sont encore, jusqu'à nouvel ordre, la plus grande puissance économique et aussi la plus grande puissance militaire de la planète. Nos économies, particulièrement au Canada, mais plusieurs ailleurs aussi, nos économies en dépendent en bonne partie. Et si l'économie des États-Unis est stable, qu'elle se porte bien, si la démocratie des États-Unis est stable et se porte bien, ben tout le monde va bien en profiter. Mais par contre, si l'économie, la situation démocratique des États-Unis connaît de l'instabilité, eh bien toute la planète va s'en ressentir. Et là, je n'entre pas dans la question du... je n'entre pas, désolé, dans la question du fait que la Russie de Poutine pourrait s'en prendre à un pays membre de l'OTAN. Et là, ça engagerait une réplique, une défense obligatoire. Et ce sont des pays qui possèdent l'arme nucléaire. Alors, ça pourrait être encore plus grave. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est bien important, cette élection et cette année électorale. Troisième nouvelle, eh bien, je termine là-dessus avec un article qui a été publié dans le journal La Presse sous la plume de Nicolas Bérubé, encore une fois. Et c'était le dimanche 3 mars dernier. Et essentiellement, il dit « Comment faire pour battre, hein, pour faire mieux que les investisseurs professionnels avec nos économies et réussir à avoir un meilleur rendement que les professionnels? » L'article s'intitule « Comment battre la caisse de dépôt en trois étapes simples » et c'est pas compliqué, je vais vous en lire des extraits parce que c'est tellement bien fait. Le monde de l'investissement est étrange. C'est le seul domaine où des gens qui n'y connaissent absolument rien ont l'occasion d'égaler ou même de dépasser les résultats des experts qui occupent des postes parmi les plus prestigieux de notre société, hein, qui sont extrêmement bien payés. Dans quel autre domaine est-ce possible? Le premier passant venu serait incapable de réaliser une opération à cœur ouvert dans un hôpital ou de diriger l'Orchestre symphonique de Montréal ou même de caler un long coup roulé au golf à la façon de Tiger Woods. Mais en investissement, c'est non seulement possible, ça arrive souvent. C'est ce qui m'est venu en tête, dit le journaliste, lorsque la caisse de dépôt et de placement, la caisse de dépôt, c'est en fait un grand investisseur qui appartient au gouvernement du Québec et donc qui essaie de faire fructifier les économies des Québécois et des Québécoises qu'on a collectivement dans la caisse de dépôt. Et la Caisse de dépôt a diffusé son rendement de l'année dernière et le rendement pour l'année était de 7,2%, le rendement de la Caisse de dépôt. Alors, il dit la comparaison n'est pas parfaite, mais un portefeuille diversifié de fonds indiciels composé à 60% d'actions et 40% d'obligations, ce qu'il appelle le « steak blé d'une patate des placements », ben ça a obtenu pour l'année dernière, hein, la même année que la Caisse de dépôt, 12,5% de rendement, si on inclut les dividendes, bref, ben ça représente au moins 5% de plus que la Caisse de dépôt, là où les gestionnaires sont payés des millions de dollars. Hein. Et depuis 5 ans, dit-il, ben on a quand même vécu pas mal d'affaires plates depuis la fin de 2018. Depuis cette date, il dit, la Caisse a obtenu un rendement chaque année de 6,4% avec des actifs répartis dans 70 pays à travers le monde. Alors, un portefeuille de 60-40 a connu une croissance de 6,85% durant la même période, ce qui, encore une fois, est mieux. Qu'en est-il du rendement à très long terme? Ben, il dit depuis 1965, la Caisse aurait obtenu un rendement de 8,2%. Avec des estimations, il arrive avec un calcul de 8,5%, ce qui, encore une fois, serait mieux pour un investisseur qui aurait fait la même recette. Il dit « Je ne cherche pas à critiquer la Caisse de dépôt qui doit composer à toutes sortes d'exigences et de restrictions légales et gouvernementales. Mais il y a un mythe, dit-il, en finance, voulant que des grands gestionnaires aient une sauce secrète ou une touche magique pour multiplier les dollars et obtenir des rendements étincelants auxquels le commun des mortels n'a pas accès. Eh bien, les données nous montrent que ce n'est pas le cas. » Et là, il va citer Charlie Munger, l'investisseur de Berkshire Hathaway qui nous a quittés l'année dernière. Et il dit « Les gestionnaires surestiment leurs aptitudes à créer davantage de richesses que le marché et en prenant des risques pour leurs clients. Combien de gestionnaires vont battre les indices, tout frais confondus, demande Munger. Peut-être 5% d'entre eux battent régulièrement les moyennes. Tous les autres vivent dans un état de déni extrême. Hein, ils se cachent les yeux, ils veulent pas voir la réalité. Quoi qu'il en soit, voici comment battre la Caisse de dépôt en trois étapes simples. Là, il dit, j'utilise le mot simple, mais c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut avoir les nerfs solides lorsque le marché recule et rester à ne rien faire. Bon, étape numéro 1, ouvrir un compte de courtage. Donc, il faut ouvrir un compte pour placer de l'argent. Bon, évidemment, avant ça, il faut avoir de l'argent mis de côté, il faut balancer ses comptes, mais ça, tout le monde vous le dit, vous devriez épargner. Votre grand-père faisait la même chose, vous devriez le faire. Après ça, choisir dans quel type de fonds vous allez le placer, évidemment. Mais bon, il suggère Questrade ou Wealthsimple qui travaillent bien, voilà. Mais il y a des comptes de courtage, d'épargne qui nécessitent pas de fonds. Le courtage escompte. Deuxième étape. Acheter un fonds diversifié équilibré. Donc, un qui représente l'indice boursier, finalement. Il dit acheter ce fonds, diversifié en achetant un seul fonds, c'est très simple. Par exemple, il donne le fonds Vanguard Portefeuille FNB équilibré, VBAL de son nom, ainsi de suite. Il y en a d'autres. Les versions de ces fonds incorporent environ 20% d'obligations au lieu de 40%, ce qui pourrait leur donner un potentiel de croissance à plus long terme, mais aussi plus de volatilité. Il s'agit des fonds qui recommandent les VGRO, ben pas qui recommandent, mais qui présentent le XGRO et le ZGRO. Vous allez trouver si vous cherchez. Voilà. Il est possible d'acheter des fonds négociés en bourse individuelle, des actions canadiennes, américaines, etc., et d'économiser encore davantage pour les frais de gestion. Bref, quand vous achetez là, un fonds négocié en bourse, on va vous chercher 9,95$, peu importe la quantité du montant de la transaction. Troisième chose à faire, eh bien, asseyez-vous sur votre derrière et attendez que l'économie aille bien ou mal. Attendez. Et là, ben, il dit, c'est l'étape la plus difficile, ce n'est pas une blague. Les meilleurs investisseurs sont ceux qui n'interviennent pas dans leur placement. Ils font tout simplement ajouter régulièrement de l'argent. Et c'est tout. Si vous ne pouvez pas vous empêcher d'investir en fonction de ce que dit un investisseur populaire ou un influenceur, ou si vous songez à faire comme votre beau-frère qui vous dit qu'il faut investir dans telle affaire, n'investissez surtout pas vous-même. Faites plutôt affaire avec un conseiller financier, un conseiller en placement. Voilà. Voilà. Il termine en disant, est-ce que l'investissement indiciel autonome est pour tout le monde? Non. Est-ce qu'il est idéal pour certaines personnes? Absolument. Pas besoin d'occuper le bureau du coin au sommet d'une tour en verre et d'être payé des millions. Voilà. N'oubliez pas, étape numéro 3, asseyez-vous sur votre derrière, patientez et ne faites plus rien. Voilà. Donc, c'est pas compliqué. Je répète les étapes. Numéro 1, vous ouvrez un compte de placement, de courtage, à escompte ou chez un automatisé là, avec l'intelligence artificielle, genre Questrade ou Wealthsimple. Deuxièmement, vous achetez des fonds d'investissement qui représentent les indices boursiers de façon diversifiée et équilibrée. Évidemment, vous planifiez des versements préautorisés. Vous budgétez ça dans vos affaires. Et troisièmement, vous vous asseyez et vous attendez. Et vous allez vous enrichir, vous allez voir. Voilà, c'était les trois actualités. Première nouvelle, eh bien, 70 pays du monde se sont entendus pour que les constructions de l'avenir soient moins polluantes. Deuxième nouvelle, le président Joe Biden a livré le discours sur l'état de l'Union, le State of the Union Address. Il était en forme et assez énergique, il paraît. Et troisièmement, comment investir et s'enrichir en faisant mieux que les experts? Ce n'est pas compliqué. On termine avec le segment « Souligner la beauté ». Et là, je vous recommande l'émission et le balado musical « C'est si bon ». Animé pour la dernière saison par Claude Saussier qui va prendre sa retraite. C'est disponible en balado ou à la radio de Radio-Canada, la radio musicale. Ça passe les samedis en fin d'après-midi de 16h à 19h ou tout le temps sur le balado C'est si bon, disponible dans l'application audio, O-H-D-I-O. Et bien pourquoi? Parce que, essentiellement, c'est de la musique des temps où tout était possible, rempli d'espoir, d'innocence, de joie de vivre et d'être. Vraiment de la musique magnifique. Ça va vous mettre de bonne humeur, mais on en a tous besoin. C'est si bon, allez souligner la beauté. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne semaine. On se reparle jeudi. C'est à vous de jouer.